Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, il est 19h30 en temps universel, une heure de plus à Alger, le journal.
Afrique Soir sur RFI. Pierre Boudias.
Une élection sans grand engouement au Tchad, triple scrutin législatif, provincial et communal hier dans le pays. Toujours pas de chiffre officiel, mais une participation qui s'annonce faible. L'est de la RDC, plus que jamais sous la menace des groupes armés, déjà confrontés aux rebelles du M23, le Nord Kivu voit les combattants ADF multiplier les actions ces derniers jours. Les djihadistes liés à l'État islamique profitent du redéploiement de l'armée congolaise. La charge du président algérien contre la France, Abdelmajid Tebboune, demande à Paris de nouvelles actions pour réparer les crimes de la colonisation. Propos tenus devant le Parlement dans une adresse à la nation. Et puis elle était un trait d'union entre répertoire classique et sonorité zoulou. La chorégraphe est dans ce sud-africaine Dada Massilo, décédée hier à l'âge de 39 ans. Le portrait d'une artiste à l'énergie débordante en fin d'édition. L'heure de l'attente au Tchad, au lendemain du triple scrutin législatif, communal et provincial. La vie a repris son cours dans le pays. Les résultats définitifs sont attendus dans quelques jours. Mais déjà, les regards se tournent vers la participation du MPS, le parti au pouvoir. Aux opposants, en passant par l'Agence nationale de gestion des élections, on fait le même constat. Ces élections n'ont pas déplacé les foules. Anjamena, explication Victor Moria.
Selon ses premières estimations, l'Agence nationale de gestion des élections reconnaît une baisse tangible de la participation lors du vote de dimanche, notamment dans la capitale N'Djamena. Ousmane Ouzibé est rapporteur général adjoint de l'ANJ.
Nous avons constaté une démotivation, une petite démotivation au niveau de la ville N'Djamena. Sur l'ensemble du territoire, la ville N'Djamena a moins voté. Au niveau de l'Agence nationale de gestion des élections, nous sommes encore en train de rechercher les causes pour comprendre quelles sont les raisons qui ont amené les électeurs à ne pas sortir massivement, comme à la présidentielle, voter à ces élections couplées.
Pour le MPS et son rapporteur de campagne, Aziz Mahamat Saleh, c'est le caractère local de ces élections qui explique le recul de la participation, mais aussi leur timing. Elles ont été organisées le dernier dimanche de l'année. Ces facteurs expliquent, pour Aziz Mahamat Saleh, une participation, je cite, « faible ». Du côté de l'opposition, et notamment de ceux qui ont fait une campagne pour un boycott actif, c'est évidemment une satisfaction, avoue Souma Jonah Achenemou, président du parti Les Démocrates.
Nous avons expliqué sur les terrains les véritables enjeux de ces processus et le peuple tchadien nous a entendus. Il a suivi en cela les consignes de boycott lancées par le GCAP. Nous le félicitons.
L'ANJ indique que les chiffres de la participation, comme les résultats officiels du scrutin, devraient être publiés d'ici la mi-janvier. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
C'est l'une des conséquences du redéploiement des forces congolaises dans l'est de la RDC ces dernières semaines. Les FRDC qui concentrent leurs efforts dans l'endiguement des avancées du M23 soutenues par le Rwanda. Et au même moment, les attaques de rebelles affiliés au groupe islamique des forces de défense alliées, connues sous leur acronyme anglais ADF, continuent dans le territoire de Beni. Hier soir encore, des sources sur place nous ont informé qu'au moins 6 personnes ont été tuées dans un village non loin de Beni. Paul Lorgerie a contacté plusieurs acteurs de la société civile pour comprendre le pourquoi de cette résurgence.
Du 17 novembre jusqu'au 14 décembre, nous avons comptabilisé 11 attaques des ADF et le nombre de morts fort étant de 25 morts.
Contacté samedi, Janvier Kassayerio, président de la jeunesse du territoire de Beni, n'avait pas encore pu comptabiliser les 6 victimes supplémentaires de Matombo, village à 30 km de Beni, attaqué dimanche soir par les ADF. De 25 morts, le bilan s'est donc alourdi à plus de 30, auxquels s'ajoute la vingtaine de victimes tuées la semaine dernière dans le territoire de Lubero. Alors que la région observait une relative accalmie, l'offensive menée par le M23 dans le territoire de Lubero ne serait pas étrangère à cette nouvelle salve d'attaque des ADF. C'est en tout cas le constat que dressent des défenseurs des droits de l'homme, comme Justin Matete, coordinateur du Forum de paix, association installée à Beni.
La majorité des unités qui servaient dans cette partie ont été déployées vers la partie actuelle sous contrôle de M23, sous motif justement qu'ils doivent se joindre à leurs collègues qui sont là-bas.
Une réaffectation des unités à la fin du mois de novembre qui a ainsi créé un vide sécuritaire autour de Beni et dans lequel les rebelles des ADF se sont engouffrés pour reprendre leurs activités macabres, observent les défenseurs des droits de l'homme. Joint par téléphone, l'administrateur du territoire, le colonel Charles Euta Omeonga, a pour autant assuré que les militaires congolais continuent à opérer dans la zone, avec le soutien de l'armée ougandaise dans le cadre de l'opération Shujaa.
À l'est de la RDC, où 23 militaires congolais ont comparu ce lundi devant le tribunal militaire de la garnison de Butembo, siégeant en audience foraine à Lubero. Selon l'armée, ces militaires sont poursuivis pour violation des consignes, désertion, fuite devant l'ennemi, dissipation des munitions de guerre, vol et tentative de viol. Ils ont été arrêtés par la justice militaire au début de ce mois. La contre-attaque des autorités béninoises après les récentes accusations du président nigérien Abdourahmane Tiani affirmait récemment que le Bénin était impliqué dans des actions de déstabilisation de son pays, évoquant des achats de matériel distribués aux terroristes, accusation catégoriquement rejetée par la diplomatie béninoise dans un courrier consulté par RFI. Explication depuis Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
Le chef de la diplomatie béninoise se dit consterné et préoccupé dans sa lettre de contestation adressée à son homologue du Niger. Sans nommer le chef de la junte, le général Tiani, le ministre béninois qualifie ces accusations de fausses, fantaisistes, injustifiées et dénuées de tout fondement objectif. Chez Goumbakari poursuit, il est inadmissible que le Bénin soit associé à des valeurs contraires à la paix et à la stabilité régionale. Et il proclame, le Bénin ne servira jamais de base arrière pour des actes de déstabilisation du Niger. Le ministre fait savoir que dans le processus de normalisation des relations entre les deux pays, la partie béninoise a proposé par écrit une rencontre des chefs d'état-major des deux pays pour lever les doutes et les suspicions. La rencontre n'a toujours pas eu lieu. Après le courrier, la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger a été convoquée au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Elle s'est présentée avec son adjoint et l'attaché de défense. La rencontre avec le ministre a duré plus d'une heure, selon nos sources. Niamey n'a pas encore réagi. Beaucoup s'interrogent sur l'impact de ce nouvel épisode sur le processus de décrispation en cours entre les deux pays. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Autre charge, cette fois du président algérien contre la France. Discours à la nation hier d'Abdelmajid Tebboune devant les deux chambres du Parlement. Dans des extraits publiés sur le site officiel de la présidence, le dirigeant a appelé Paris à reconnaître ses crimes en Algérie. Précision Ouda Ibrahim.
Les Français doivent admettre qu'ils ont tué et massacré les Algériens, a souligné le président Tebboune en revenant sur la période coloniale et la guerre d'indépendance algérienne. Le chef de l'État a aussi appelé la France à nettoyer les sites des essais nucléaires contaminés dans le sud du pays. « Vous êtes devenu une puissance nucléaire », a-t-il rappelé, « et vous nous avez laissé les maladies ». À ceux qui, aujourd'hui, en France, vantent les bienfaits de la colonisation, le dirigeant algérien répond que celle-ci a laissé l'Algérie en ruine. 90% d'Algériens étaient analphabètes à l'indépendance, a-t-il ajouté. Évoquant la question sahraoui, il a affirmé que l'idée d'autonomie est une idée française et non marocaine, soulignant que les options de règlement qu'il propose pour la question du Sahara occidental sont des choix entre le mal et le pire, alors qu'il s'agit d'une question de décolonisation et d'autodétermination. Pour la première fois, le président Tebboune est revenu sur l'arrestation à la mi-novembre à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il l'a qualifié d'imposteur au père inconnu. Il dit que Sansal est envoyé par la France pour affirmer que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État.
L'opposant guinéen Aliou Ba s'apprête à passer sa première nuit en prison. Il avait été arrêté jeudi dernier à la frontière sierra-léonaise et fait face à des poursuites pour offense au chef de l'État. Et puis un décès brutal hier, celui de la danseuse sud-africaine Dada Masilo à l'âge de 39 ans. Une artiste mondialement connue pour avoir réussi la synthèse entre répertoire classique et musique africaine. Son portrait est signé Isabelle Chenu.
Dada Masilo était une danseuse magnétique, crâne rasé, énergie survoltée, devenue chorégraphe pour pouvoir raconter des histoires d'aujourd'hui avec une intelligence qui lui a ouvert les portes des plus grandes scènes du monde. Née dans le township de Soweto en Afrique du Sud, formée à la danse dès l'âge de 11 ans, elle s'est fait connaître en s'emparant du répertoire du ballet classique occidental qu'elle avait revisité avec audace. Succès immédiat pour son Lac des Cygnes, sa Carmen pleine d'énergie sexuelle, son adaptation de Roméo et Juliette ou sa Gisèle devenue une héroïne féministe. Dada Masilo bouleverse les codes, mêle la gestuelle classique avec les rythmes africains comme la danse Zoulou. Sur scène, elle alterne les solos sensuels et les chorégraphies d'ensemble explosives. Dans son Lac des Cygnes, les pieds nus frappent le sol comme dans le Gumboot, cette danse sud-africaine percussive. Pas de chaussons roses ni de pointes, mais des tutus blancs pour des danseurs noirs, hommes ou femmes, des you-you rythment la danse. Dada Massilo, par ses récits et ses spectacles, s'employait à lever le voile sur les tabous sociaux de son pays, dénonçant l'oppression des femmes, l'homophobie et les ravages du sida en Afrique du Sud.
À presque 19h40 en temps universel sur RFI, restez avec nous. La soirée continue sur la Radio du Monde.